Slate Podcast.
Histoire de Gabriel, troisième et dernière partie.
Donc on fait ces trois jours de train et là, on arrive à la gare d'Alapi avec la mousson. C'est les premières pluies de la mousson, à savoir un orage extraordinaire. La pluie qui s'abat d'une manière très lourde, la nuit totale, sinon les éclairs. Et là, donc dans cette ambiance-là d'orage, qui était parfaite, déjà j'avais cette conscience que les éléments illustraient assez bien l'histoire. Il y a le frère qui nous attend à la gare, droit comme un piqué. Et moi, pendant tous ces moments où j'ai dû affronter un peu son entourage, je suis resté très calme. Et très. On m'a d'ailleurs demandé, mais comment tu fais pour être si calme? Je me suis dit que j'avais pas d'autre choix, j'allais pas m'exciter. Et puis je suis resté calme et je me suis dit, bon voilà, faut que j'assume cette chose que je comprends pas très bien, mais qu'il faut que j'assume. Voilà. Et donc le frère nous accueille, il me tend une main assez froide, et puis il me dit, bah, assis-toi dans le rickshaw, le taxi à trois roues, là. Il me dit, assis-toi à côté de Bindou, il me laisse m'asseoir à côté d'elle. Donc je me dis, bah voilà, il accorde quand même une forme de place à cette histoire, et donc je l'ai interprété comme voilà, t'as choisi ta destinée, bah soit, et c'était une manière de montrer qu'il l'acceptait aussi. Voilà, donc il me laisse m'asseoir à côté d'elle, il s'assoit à ma droite, et puis on est parti sans un mot pour rejoindre la maison familiale sous la pluie avec l'orage. Et là, on arrive au moment de la prière. Normalement, toute la famille prie dans le salon, et là, quand on arrive devant la maison, je vois que sous le porche, il y a le père, ce qui n'était pas habituel, qui est sur un rocking chair et qui regarde droit devant lui sans nous adresser ni un mot, ni un regard. Il regarde tout droit devant lui et les autres sont en train de prier dedans. Donc elle va s'effondrer à ses pieds. Alors elle m'a traduit plus tard ce qu'ils se sont dit. C'était pas si facile parce que lui disait, écoute, tu as jeté le déshonneur sur la famille. Tu es la honte de la famille. Maintenant, on ne pourra plus être respecté. Tu n'es plus ma fille. Et elle lui disait en pleurant, pardonne-moi papa, je t'aime papa, pardonne-moi. Très rapidement, on me dit, viens, on va dans la maison d'à côté. Il y a un type qui s'appelle Jason, qui parlait bien anglais, donc c'est pour ça qu'on allait là-bas, pour qu'il serve d'interprète, puisqu'il s'agissait de ce qu'on se comprenne bien et clairement. Et puis, on me demande, donc, quel est ton programme? Donc, je dis, bah voilà, on n'a pas fait les choses bien. Moi, j'aime votre fille, je leur explique, j'aime votre fille, je veux me marier avec elle. On a fait une bêtise, mais bon, voilà où on en est. Il faut qu'elle ait un passeport. Je veux l'emmener en France, je veux me marier. Et là, ils me disent, OK, très bien. Est-ce que tu peux nous donner ton passeport et une partie des bagages? On ne voudrait pas que tu partes tout de suite. Tu vas rester une semaine. Et je dis, bah, d'accord, très bien, le temps qu'il faudra. Et en fait, là, tous les jours, j'ai eu le droit à des rencontres avec un jour une nonne, un autre jour, un avocat, où en fait, il me faisait défiler tous ces gens-là pour que je comprenne que ce n'était pas un engagement à la légère et que si je ne revenais pas et que si je ne respectais pas ma parole, la vie de Bindou était finie. Donc, il voulait bien s'assurer, en fait, que je comprenne ça avant de partir et de revenir comme je m'étais engagé. Donc, c'est vrai que ça a été un peu particulier. Je me sentais un peu séquestré et j'ai bien compris, mais j'acceptais qu'il me mettait un peu la pression pour que je comprenne que ce que ça impliquait, voilà. Ça impliquait pas n'importe quoi. Et donc, bah, ça n'a pas été le moment le plus agréable du séjour, parce que, en plus, j'étais complètement déconnecté de Bindou. On a pu s'arracher peut-être un baiser à un moment donné dans le salon. Voilà, mais c'était plus du tout le moment de nous laisser tous les deux seuls. Et donc, moi, j'avais pris un hôtel. Je me rappelle une chambre ronde sans angle, qui était un peu angoissante. Et donc, voilà, j'ai passé cette semaine à avoir des avocats, à signer des papiers, je pense sans aucune valeur, mais bon, eux pensaient me cadenasser d'une certaine manière et m'obliger à revenir. Progressivement, ce qu'il faut quand même dire, c'est que je me suis quand même rendu compte, parce que ça partait au début d'un sentiment fou d'amour, débordant, qui n'acceptait aucune contrainte et aucune raison. Et petit à petit, puisqu'on s'était quand même frotté à la réalité, là, avec le voyage, avec l'ambassade, avec la vie à deux, et puis avec les heures qui passent et les jours qui passent, c'est vrai que il y a eu une progression quand même dans mes sentiments et dans l'image que je me faisais de cette histoire. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en temps réel que la peur était antinomique de l'amour et que je sentais que plus la réalité me rappelait qu'il y allait avoir des obstacles et que ces choses n'étaient pas si faciles. Et donc la peur que ça pouvait engendrer pouvait gâcher d'une certaine manière ou me faire pas atterrir de mon rêve, mais pouvait en quelque sorte m'empêcher de développer l'amour que je pouvais avoir pour Midou. Donc je sentais déjà que ça, c'était pas si bon et que en effet j'avais peut-être fait une bêtise. Je crois que je me suis rendu compte à un moment donné que même si je le savais finalement avant de partir, que j'organisais une grosse bêtise, voilà, j'avais besoin peut-être de l'éprouver, et en tout cas en l'éprouvant je me rendais compte que ça allait pas être si simple, en fait, que mon amour pour Binou n'allait pas suffire à dépasser tous ces obstacles qui étaient dus à la différence de culture, à mon jeune âge, au fait que j'étais pas du tout réalisé dans ma vie, que j'avais rien vécu encore de significatif, et que voilà, que c'était un engagement fou, en fait, dans ces conditions-là. Et du coup, bah, ça a été un long grignotage, en fait, de la raison et de la peur contre les sentiments fous et romantiques de l'amour. Et ça a été une sorte de lutte interne que j'essayais de gérer au mieux que je pouvais. Mais en même temps, à ce moment-là, il faut quand même comprendre que j'étais quand même encore plein de sentiments pour Bindu. Et puis, il n'était pas question, de toute façon, que je me dérobe, puisque j'avais maintenant à ma charge et je ne pouvais pas la laisser. C'était pas du tout... Juste, je me rendais compte que ça n'allait pas être simple. Mais jamais je me disais, je vais l'abandonner, je vais la laisser. Je me rappelle de cette fois où on s'est embrassés, donc de manière très fougueuse, et puisqu'on avait, on vivait un moment dur, elle surtout, puisqu'elle était dans sa famille, elle avait cassé beaucoup des codes de elle avait fait comme un coup extraordinaire à s'enfuir sans prévenir. Et du coup, on vivait une forme de détresse, en fait. Et donc, il fallait à la fois se rassurer, et puis à la fois, elle me manquait. Donc, ça a été un baiser, je me rappelle, assez douloureux, parce qu'il ne pouvait pas du tout nous calmer d'une certaine manière. Et puis, c'était un baiser volé, et puis on avait peur de se faire prendre. Voilà, c'était un peu terrifiant, au final. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'on était quand même dans une drôle d'affaire, tous les deux. Et puis elle était malheureuse, elle pleurait parce que voilà, elle avait déçu toute sa famille, elle avait chamboulé tout l'équilibre de sa famille. Il fallait que j'assume. Donc j'étais prêt à le faire. Au bout d'une semaine, je suis reparti. Ça a été plutôt déchirant de quitter Bindu et de la laisser dans ces conditions-là. Je prenais un car pour Bombay. Une fois Bombay, il a fallu que je prenne un train pour Delhi. Bon, j'étais que dans la tristesse du départ, et puis j'allais rejoindre mon ami Paul qui m'attendait à Delhi. Notre avion était trois jours plus tard, et donc ça allait être mon anniversaire. J'allais avoir 21 ans, en fait, l'âge légal pour se marier, parce que je l'avais même pas, donc au moment où j'ai entrepris cette chose avec Bindu. Et du coup, voilà, j'ai fêté mes 21 ans de manière absurde à Delhi dans une boîte de nuit vide où on n'était que trois, et puis voilà, je suis rentré à Paris. Je suis rentré à Paris, j'ai atterri. Quand je suis rentré d'Inde, ouais, on m'a pas trop posé de questions, mais clairement, tout le monde était au courant. Ils savaient que j'avais fait un peu n'importe quoi. Donc moi, la disposition dans laquelle j'étais, je suis rentré en France en me disant qu'il faut que je travaille maintenant et que je gagne de l'argent pour en envoyer à Bindu et puis en réunir suffisamment pour pouvoir retourner là-bas et me marier. Et en fait, donc, en effet, je me suis mis à bosser dans le bâtiment, je faisais des gâchettes de ciment, j'étais le manœuvre sans compétence dans un chantier. Voilà, je gagnais un peu d'argent, j'envoyais 100 euros à la Western Union à Bindu toutes les semaines, ce qui était beaucoup d'argent, peut-être tous les mois en fait, c'est beaucoup toutes les semaines. Bon, bref. Et en fait, ça va être dur à raconter cette période, parce que c'est une période en fait où chaque jour qui passait, en fait, je voyais que j'étais de moins en moins prêt à y retourner. En fait, pour moi, j'étais sûr d'y retourner, puisque l'inverse était impossible. Mais c'est vrai que très rapidement, j'ai compris que c'était moins fluide que ce que je pensais, moins inscrit dans le réel que ce que je pensais. Et c'est vrai que de retour à Paris, sans vouloir me l'avouer tout de suite, je crois que j'avais compris, en fait, que j'avais fait une bêtise. Et donc, très rapidement, j'ai émis des hypothèses, je me suis projeté, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui va donc arriver? Il faut que je retourne là-bas, que je me marie avec Bindu et que je la ramène en France. Et c'est vrai que je me rendais compte que ma vie à Paris n'était pas du tout construite. J'étais encore chez ma mère, je fumais des pétards, j'allais boire des cafés. Et c'est vrai que j'avais du mal à lui faire une place dans mon imaginaire, à me dire, mais oui, je vais être avec elle, on va devoir trouver un appart, que je trouve un boulot. Bon, là, je fais du chantier, mais je vais peut-être pas faire ça toute ma vie. Et puis, j'arrivais pas à faire prendre corps à cette hypothèse-là. Et pourtant, j'avais pas du tout le choix. que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que ça devait arriver, puisque si ça n'arrivait pas, elle mourrait. Donc, c'était pas possible. Mais bon, c'est pas arrivé tout de suite dans mon esprit. Mais au début, bien sûr, j'allais revenir. Et puis, au fur et à mesure des semaines, je me rendais compte qu'en fait, je préparais rien de précis pour que ça arrive. Et juste, je lui envoyais de l'argent. Et puis, elle me demandait, mais quand est-ce que tu rentres? Et moi, je lui dis, mais bientôt, il faut juste que je réunisse assez d'argent. Mais en même temps, je m'étais pas non plus fixé une somme précise. Enfin, je voyais que j'étais pas dans un truc très actif. Et que juste, en fait, je me laissais le temps d'atterrir, en fait, de ce voyage. Et surtout que je me laissais le temps de découvrir que j'avais déjà compris, en fait, que c'était peut-être une erreur. Et que c'était une grave erreur, du coup, puisque ça impliquait quand même des destins et un virage dans le destin de cette fille, qui était insupportable à imaginer, puisque je l'aimais encore, malgré tout. Donc c'est là où c'est un peu difficile de décrire le sentiment d'amour qui se défait un peu plus chaque jour et qui laisse place à une culpabilité. Et puis c'est vrai qu'elle devenait de moins en moins réelle pour moi, parce que je la voyais plus, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. D'une manière assez progressive, je me rendais compte, en fait, face à moi-même, que je n'organisais rien pour y retourner et que je nourrissais pas forcément une grande ferveur dans ce retour, même si je me laissais pas le choix de d'y renoncer. Donc très rapidement, je suis allé voir un psy. Parce que je comprenais en fait que je rentrais dans une torture mentale. Parce que, en fait, voilà comment, une fois que j'ai compris que ça me dépassait, que en fait j'avais aucune garantie de la rendre heureuse, et donc c'est ça qui me semblait très sombre. C'est-à-dire, je me disais, mais en fait, donc t'as fait une bêtise, Gabrielle. Donc, si tu retournes et que tu te maries avec elle comme prévu, il y a très peu de chances pour qu'elle vous ayez une vie heureuse à deux. Et donc, est-ce que c'est vraiment un cadeau que je lui fais à respecter ma parole? Donc, j'avais cette possibilité-là que je n'y retourne pas et qu'elle perde, elle, son honneur. Ou alors la possibilité que j'y aille, mais que je me sacrifie d'une certaine manière et que, sans aucune garantie, qu'elle soit heureuse. Donc, en fait, il n'y avait pas de bonne solution. Et donc, je retournais ça dans ma tête de manière continue en changeant d'avis toutes les deux heures, en me disant, mais non, je suis obligé d'y retourner parce que je ne peux pas la laisser mourir. Je l'aime encore. C'est la femme de ma vie. N'oublie pas, Gabrielle. Et puis très rapidement, j'allais au bout de cette hypothèse et je me rendais compte que c'était pas si possible que ça. Et donc en fait, je me dis, bah non, je peux pas y retourner, je la rendrai pas heureuse, quoi qu'il arrive, c'est l'enfermer, ça va être la gâcher que de faire ça. Mais donc si je peux pas y retourner, c'est que je la condamne à plus avoir de vie, à être détruite socialement et à envisager que le suicide ou je sais pas quoi d'autre. Et donc il y avait pas de bonne solution, et donc je retournais, donc je changeais encore d'avis et je me disais, bah non, il faut que j'y aille, et non, je peux pas y aller. C'était une torture. Et elle de m'envoyer donc des mails, alors Gabriel, quand est-ce que tu rentres? Il y a quand même des semaines, des mois qui passent, je devais revenir au bout de 3-4 mois. Au bout de 5-6 mois, elle comprend que les choses traînent un peu, donc je lui dis, écoute, c'est un peu plus compliqué que prévu, j'essaie d'avoir un peu plus d'argent. Et alors déjà, quand je lui dis ça, je sais que je suis pas complètement honnête avec elle. Et en fait, ça veut dire que mes sentiments sont plus du tout aussi solides qu'avant. Et j'ai des gros doutes concernant mon retour, mais ça, bien sûr, je ne lui dis pas. Et donc, je suis déjà dans un rapport un peu faussé avec elle, donc plein de culpabilité. Je lui envoie de l'argent en me disant au moins là, ça, de moi. Ce qui est vraiment pas... Je ne pensais pas que ça allait être ça, juste la preuve d'amour et tout ce qui allait rester, en fait, de notre relation. Et puis, très rapidement, en fait, j'ai compris que j'allais pas y retourner, que ce n'était pas possible. Et bien sûr, pour le temps de trouver le courage de lui annoncer, de me le formuler à moi clairement, ça a mis quelques semaines, voire quelques mois, où elle a encore eu le temps de m'envoyer beaucoup de mails en me disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Où es-tu, Gabriel? Tout le monde se moque de moi. Les gens me pointent du doigt dans la rue en me disant « Mais ton homme blanc, il va jamais revenir, mais il s'est bien foutu de toi. » Bon, voilà, j'imagine que ça a dû être horrible pour elle. Elle me parlait de suicide. Elle me dit « Si tu reviens pas, clairement, je me suicide. » Et donc, je dis « Bon... » J'étais en train de la lâcher, tout simplement. J'étais en train de la lâcher à son sort. De toute façon, il était presque passé un an. Il y a eu un an d'attente où elle attendait. Elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais, truc? Et au bout d'un an, j'ai fini par lui dire, écoute, Bindou, c'est... Et en fait, j'ai mis beaucoup trop de temps à lui dire, mais je lui ai dit, je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit, Bindou, je vais pas revenir, c'est horrible ce qui se passe. Mais c'est trop compliqué, on n'a pas assez bien réfléchi, ça implique plus de choses pour toi que pour moi. Et c'est horrible, c'est tragique, je ne sais pas comment te le dire, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire pour réparer. Je vais t'envoyer de l'argent, je vais essayer de te soutenir par tous les moyens, mais je ne vais pas pouvoir venir me marier avec toi. Je lui ai écrit ça dans un mail. C'était horrible parce que moi, j'avais déjà formulé ça depuis longtemps dans mon esprit. Et là, je devais lui annoncer parce que je ne pouvais pas la faire attendre toute sa vie un potentiel retour. Et donc, du coup, je pense que j'avais bien l'impression d'être un salopard à un moment où j'ai envoyé ça et d'avoir complètement merdé, d'avoir complètement déconné, d'avoir peut-être détruit une vie. Donc, j'étais en train de me dire que oui, j'ai peut-être en train de détruire sa vie. Donc une fois que je lui annonce que malheureusement je vais pas pouvoir revenir la voir et me marier avec elle, là elle essaie de me convaincre, elle accepte pas du tout ma décision, donc elle essaie de me convaincre en me disant écoute, si tu reviens pas je meurs, ma vie est vraiment finie, et elle m'a pas lâché pour autant, c'est-à-dire qu'elle m'a envoyé des mails régulièrement pendant un an encore derrière, pour tous mes anniversaires, pour toutes les fêtes, elle m'a envoyé un mail de rappel en disant écoute, j'espère que tu vas bien, tout ce que je veux c'est que tu sois heureux. Et elle finissait ses mails par always yours en anglais, donc toujours à toi, toujours tienne. Et c'est vrai que ça m'effondrait je me disais mais ça se trouve je suis en train de laisser partir en fait vraiment la femme de ma vie qui était si pure dans son amour, qui est si entière. Donc je me dis là t'es en train d'assister à la détresse de cette fille et de la perdre, et peut-être elle-même en train de se perdre. Donc c'était assez tragique, il faut quand même l'avouer. Et je trouvais ça assez fou qu'elle continue, que quoi qu'il arrive, quoi que soit ma décision, elle continue à me souhaiter le meilleur. Et je comprenais pas, je savais pas si c'était, j'avais pas l'impression que c'était une tactique en fait de sa part pour que je revienne ou essayer de pas perdre le lien avec moi. Mais je voyais là en fait une sorte de grandeur d'âme et de cœur. Le temps a passé, les rapports se sont distendus, les échanges de mails se sont distendus, et puis j'ai commencé à essayer de prendre des nouvelles par des gens qu'on connaissait en commun sur place. Et donc j'ai appris, au bout de 2 ans, donc après que je sois rentré, qu'elle avait déménagé dans un autre état et qu'elle avait trouvé un emploi de professeur. Donc déjà j'ai eu une sorte de soulagement en me disant, bon, déjà, elle ne s'est pas suicidée, elle n'est pas morte. Et puis, elle a une chance, là, dans un nouvel état. Je pense que c'est pour ça qu'elle l'a fait, pour se réinventer une vie dans un milieu où personne se moque d'elle et personne où elle peut se reconstruire, en fait, depuis zéro. Et encore un an après, j'ai appris qu'elle s'était mariée. Et encore un an après, qu'elle était enceinte et qu'elle attendait un enfant. Donc on peut dire que je n'ai pas détruit complètement sa vie, je ne sais pas du tout si elle est heureuse aujourd'hui, si elle a vécu un mariage heureux, mais au moins je me suis dit qu'elle a eu une chance de repartir un peu dans sa vie et qu'elle ne s'arrête pas là-dessus. Je pense que en fait, là où ça n'a aucune incidence, où ça n'a pas eu d'incidence, en tout cas à ma conscience directe sur les faits, c'est que je pense que c'était une sorte de bulle, en fait, une sorte de parenthèse. C'était comme un rêve duquel j'ai atterri en atterrissant pour le coup littéralement en rentrant d'Inde, en arrivant à Paris. Même si j'ai mis du temps à comprendre que je m'étais réveillé, mais je pense qu'en effet, c'est là où j'ai du mal à faire un lien entre cette histoire et la réalité et l'incidence que ça a pu causer. Parce que je pense que c'est assez particulier, ça a été comme une parenthèse, un truc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je raconte l'histoire, j'ai du mal encore à vraiment revivre les émotions telles que j'ai pu les vivre à l'époque, à me revivre exactement ce voyage, puisque oui, c'est comme si, je sais que ça arrivait, mais il y a quand même ce sentiment un peu absurde et irréel, en fait, on va dire, un peu difficile à connecter à ce qui nous entoure. Je pense que c'était en effet comme un rêve et un épisode bien à part dans mon existence. Vous savez que sur le retour, en fait, je suis allé voir un psy qui m'a dit, je vais raconter l'histoire, il m'a dit, oui, mais vous savez, il y a un livre qui s'appelle Les Fous de l'Inde, qui répertorie ces cas-là d'occidentaux qui arrivent en Inde et pour plus, alors qu'ils n'avaient pas forcément un terrain très fragile, décompensent après quelque temps en Inde, et puis certains se prennent pour Napoléon, d'autres pour Jésus, avec différents niveaux de gravité. Et en fait, on ne sait pas trop quoi faire pour ces gens qui décompensent, sinon qu'on s'est aperçu qu'une fois rapatriés d'urgence dans leur ville d'origine. Ils sont guéris dans les 2 heures après l'atterrissage. Donc, ils sont quand même aperçus qu'il y avait un souci pour certains Occidentaux. Et donc, on explique ça, ils expliquent ça par le choc culturel qu'il peut y avoir, la portée mystique qu'il y a en Inde avec tous ces dieux, ces croyances, etc. Et puis, la misère qui peut être déstabilisante dans les codes qu'on ne retrouve pas, en fait, une fois sur place. Et donc, tout ça, mis à bout, peut provoquer chez certains des compensations, un décollement réel de la réalité. Et il se peut que j'ai un peu souffert de ce syndrome, de cette chose-là, puisque c'est vrai qu'on y repense, c'est sûrement, on dit, une folie douce, une folie d'amour, quoi. J'ai vécu un moment de bonheur assez intense les semaines dans ce bled d'Alapi. J'étais très apprécié, très populaire, donc tout d'un coup très narcissisé. Je pense que tout ce bonheur, ce sentiment de liberté m'a un peu enivré et je n'étais pas prêt à accepter autant de bonheur d'un coup. Et je pense que ça a préparé là, en fait, déjà un certain décollement de la réalité, a préparé, on va dire, la suite de l'épopée parce que j'avais déjà des bases pas très inscrites dans la réalité. Donc moi, très heureux, alors que je suis plutôt torturé, anxieux, un peu peureux, etc. Et tout d'un coup, là, c'était l'inverse. Plus rien me faisait peur pour une aussi belle cause que l'amour. Ça me semblait être parfait, en fait, comme agencement. Et du coup, je pense que oui, j'ai voulu croire en un rêve éveillé, mais voilà, j'étais pas complètement dupe. C'est-à-dire que je sentais en même temps que ce que je faisais était tragique. Et à la fois, il fallait absolument que j'arrive au bout de cette histoire. Il fallait que je la vive, en fait. Et donc, je pense que ça devait répondre à une grande frustration et ça devait répondre à un désir d'absolu qu'on peut avoir beaucoup, de manière très intense à cet âge-là. Un désir d'amour, d'absolu, de grandeur, de choses qui dépassent un peu l'entendement et la raison, mais sans avoir les épaules pour accueillir toutes ces grandes choses, en fait. Au fond, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une bêtise, en fait. J'ai déstabilisé une vie et ça a failli être dramatique.
Gabriel était au micro de Caroline Gillet et Lola Costantini, qui a monté et réalisé l'épisode, et c'est Pauline Thompson qui a composé la musique. Le mixage est de Jean-Baptiste Aubonnet. Et si vous avez des histoires, écrivez-nous à podcast@slate.fr. À très vite.
Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.